d'accord que notre être est un être qui ne désire que l'amour. Voilà. Notre être désire aimer, être aimé, et que inévitablement, sur ce chemin, nous allons rencontrer la limite des autres, et donc faire l'expérience de la blessure. Alors, voilà l'axiome que j'aimerais que sur lequel vous méditiez. Si on est pas responsable toujours des blessures qu'on a subies, si on n'est pas toujours responsable des blessures qu'on a subies, parfois on est responsable, hein, on est par contre responsable de la manière dont on va réagir aux blessures. Si on n'est pas responsable des blessures qu'on a subies, on est responsable de la manière de réagir. Et c'est ce que je vous disais par rapport à l'exemple emblématique de la jeune fille dont son ami lui a dit qu'il allait voir plutôt ailleurs. Voilà. Pour elle, elle ressent ça comme une blessure, mais en fait, sa réaction peut être soit une réaction d'enfermement, soit une réaction de tremplin dans l'amour. Soit elle va dire, ils sont tous les mêmes, hein, vraiment. Elle va généraliser, donc elle va disproportionner sa blessure et l'étendre finalement à tout genre masculin. Hein. Ou soit elle va vraiment voir que cette situation est un tremplin pour l'amour, et à ce moment-là, elle va rester confiante et elle va dire, très bien, tu veux partir, moi je vais continuer à t'aimer, mais pour ta liberté, pour ta vie, etc. Donc face à toute blessure, que ce soit celle que nos parents nous font subir, et inévitablement ils ont tous fait subir des blessures, que cela soit par rapport à l'autorité dans une vie collective, communautaire, éventuellement même ici, que ce soit en général par rapport à l'Église, etc. Donc on n'est pas responsable toujours des blessures, mais à nous d'être matures, d'être adultes dans cette réaction à la blessure. Et la réaction à la blessure, c'est d'abord de proportionner la blessure, de lui donner sa vraie mesure, et ensuite de choisir que la blessure est une école d'amour. C'est-à-dire que le non-amour de l'autre n'est pas là pour susciter mon non-amour à moi, le non-amour de l'autre est là pour susciter l'amour gratuit. Et c'est là où vous voyez l'expérience concrète de la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix ? C'est l'amour gratuit qui répond au non-amour, selon bien sûr une intensité dramatique. Hein? Et c'est ça le chemin, vous voyez, de la croix que l'on a évoqué, répondre au non-amour par l'amour. C'est ça le chemin du salut. Et ça, tous les jours, on est confronté à la possibilité de cette expérience, de pouvoir grandir dans l'amour gratuitement, car toutes les adversités sont finalement pas des obstacles, mais des tremplins. Alors vous allez me dire, facile. Il n'a jamais été amoureux, il ne sait pas ce que c'est. Vous en faites pas, on a été amoureux et on sait ce que c'est. Ok. Donc, par contre, si par rapport à une blessure, on insère le doute. Ah, je ne suis pas aimable, je ne suis pas aimé. Et c'est parti dans le zozo. Hein? Il y a deux grandes spirales qui vont à être les conséquences, c'est je vais m'endurcir et je vais m'isoler. Mais ça, c'est moi qui choisis de mettre le doute. C'est moi qui choisis de traduire ma réaction, d'interpréter la blessure, de me positionner par rapport à la blessure en y mettant le doute et en m'enfermant dans ce doute, ce qui va provoquer un endurcissement de mon cœur et un isolement. Et il y a des gens qui s'auto-détruisent comme ça. C'est normal d'être face à des blessures dans notre vie. Toute votre vie, ce sera des blessures. Mais est-ce que ça sera des blessures comme les blessures du Christ ouvertes, duquel se répand l'Esprit Saint et le sacrement de la vie, le sang? Ou ce sera des blessures fermées, qui, comme Platon dit, toute blessure fermée dans le Phèdre qui isole et qui détruit? Voilà. Et ça, c'est le cœur de notre vie. Face à notre blessure, est-ce qu'on se rétracte, on s'isole, ou est-ce qu'on s'ouvre et on pardonne? Parce que dans le mariage, vous êtes, il y en a quelques-uns qui sont amis, hein, qui sont fiancés, il y en a qui seront mariés, les blessures, ça y va. Hein. Donc c'est une invitation à un positionnement mature pour calibrer la blessure, lui donner sa vraie réalité, et après demander à l'Esprit-Saint de traduire ça en chemin d'amour. Car le but du mariage, c'est de grandir dans la sainteté de l'amour. En fait, dans l'amour gratuit, au cœur même de la rencontre, des écueils et des blessures. Donc, n'ayons pas peur d'être blessés. Parce que parfois, on refuse de s'engager parce qu'on a peur d'être blessé. Mais on a peur d'être blessé parce qu'on n'est pas encore mûr assez pour savoir gérer ces blessures. Comme un chemin de sainteté. La croix est la réponse à ce chemin-là. Aimer gratuitement là où il y a le don d'amour. Ça devient très concret dans les relations affective. Voilà. Donc par contre, si on met sa confiance au cœur même de la blessure, hein, au cœur même de la blessure, on garde confiance. On garde confiance dans l'amour qui est plus grand que la limite de l'amour de l'autre. Entre guillemets, on a confiance dans l'amour de Dieu qui va toujours nourrir mon cœur pour faire toujours confiance. Voyez. N'hésitez pas à méditer cette belle phrase de Thérèse, hein, comme je l'ai déjà évoqué. Voilà. N'arrêtez pas de prier Jésus, de méditer l'amour de Jésus. La confiance dans l'amour fait des miracles. Fait des miracles. Jamais, ça je peux le dire avec un petit peu d'autorité, ne perdez jamais confiance dans l'amour. Choisissez toujours d'avoir confiance dans l'amour. Et si c'est dur, tournez-vous vers Dieu. Mais jamais laissez votre cœur s'endurcir. Et ce que vous allez vivre comme blessure, par contre, c'est la même chose que vous avez comme relecture de vos blessures passées. Vos blessures passées, vous avez pu les disproportionner. Vous avez pu, en conséquence des blessures, vous endurcir et vous isoler. Relisez avec votre accompagnateur certaines blessures passées. Remettez-les à leur vraie dimension, réelle. Et après, rechoisissez de vivre ça, non pas en y mettant le doute, mais en y gardant la confiance. Voilà. Et à ce moment-là, votre vie va se régénérer dans votre histoire passée et dans votre histoire actuelle. C'est cela, vivre dans une manière spirituelle votre existence, toujours garder confiance, confiance dans l'amour, ce qui fait grandir votre être spirituel, ce qui n'arrête pas, ne vous fait pas arrêter de vous donner sans cesse, hein, et de rentrer dans une dépendance positive à l'amour. De tout vivre par amour, rien que par amour. Et pour les situations quand t'es douloureuse, ben, de demander pardon et de traverser vos angoisses. Voilà. Je sais que c'est un peu rapide, mais la clé me semble être décisive pour la construction de votre maturité humaine et puis de votre liberté. Et ça, c'est la conscience toujours. Parce que c'est la conscience qui choisit le positionnement. Est-ce que je laisse ma conscience vraiment s'éclairer? Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir de faire du donnant-donnant? Vous voyez, vous entendez des couples dire « il me trompe, je trompe ». Mais c'est de la folie de dire ça. C'est de la folie. Tu te détruis, je vais me détruire. Ça ne construit rien du tout, ça. Tu vas voir ailleurs? Très bien. Moi, je serai fidèle. Ah ben alors, l'autre, il ne comprend plus rien. Il attendait la bagarre et il n'a que l'amour. Voilà. Ne répondez à la blessure, à l'adversité, à l'infidélité que par la fidélité à l'amour. Jamais ne quittez ce fil de l'amour, cet amour reçu, cette dépendance à l'amour, ce goutte à goutte de l'amour. Jamais, 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 jamais. Sinon, hein, comme au désert, la plante va brûler très rapidement. Et à ce moment-là, c'est les instincts, les passions qui vont reprendre le dessus et ça sera du donnant-donnant. Voilà. Et de cette manière, seul vous pouvez vivre, vous deviendrez, voilà, vous deviendrez amour, vous deviendrez action de grâce, vous vivrez dans la grâce, vous serez dans un état de grâce. Et c'est ça le but de la vie chrétienne. Hein, c'est d'être dans cet état de grâce que j'ai, ce que si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette, hein, dit à nouveau Jeanne d'Arc. Voilà, être en action de grâce. Et aujourd'hui, quand on fait l'annonciation, c'est ça. L'action de grâce. Ne laissez personne dans votre vie avoir un pouvoir sur vous pour vous empêcher d'être dans l'action de grâce, d'être en état de grâce. Personne. Et autorité. Voilà. C'est comme le lieu, c'est le climat de votre conscience, de votre esprit, de votre cœur profond. C'est ce climat-là que personne n'a le droit, qu'aucun événement n'a le droit d'avoir pouvoir. Même jusqu'à l'adversité la plus forte qui peut être une croix. Et le Christ a traversé le non-amour en descendant même jusqu'aux enfers et en libérant hein, l'homme des conséquences du péché originel. Voilà. Et c'est, ça devient très... Il faut aller jusque-là. Et vous en faites pas, le Seigneur, il vous fera amener jusque-là si vous voulez rencontrer la perfection de l'amour. Parce qu'il veut vous faire expérimenter la perfection de l'amour, donc il permettra des croix pour que vous, vous grandissiez dans la vérité du salut qui n'est qu'amour. Dieu ne veut pas les croix, mais il les permet pour que la magnificence de son salut puisse se révéler dans chacune de vos vies individuelles. Voilà. Donc n'ayez pas peur des blessures, de l'adversité, voilà, de cette confrontation-là. Elle peut être constamment un tremplin de vie. Et n'hésitez pas à relire votre histoire passée sous ce registre-là. Voilà. Alors, un deuxième point. On va donc aborder directement le rapport entre la conscience et l'erreur. Et la conscience et le doute. Donc tout d'abord, on va y aller à grands traits. Hein. Mais bon, est-ce que ça vous paraît... Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui? Oui?
C'est ça, c'était ce que vous dites là, c'était
une expérience personnelle. Non, alors, l'autorité de ça, n'hésitez pas à prendre l'italien. C'est en italien qu'il y a les meilleurs livres sur la psychologie religieuse, psychologie spirituelle, etc. Donc, c'est toute la tradition de la psychologie spirituelle qu'il peut y avoir dans une certaine lecture anthropologique. Oui. Il y a 15 jours, j'étais à Rome. J'ai passé 2 après-midi à faire le tour de toutes les librairies, à lister tous les bouquins qui sont sortis depuis 5 ans, et notamment des bouquins en psychologie religieuse. Il y a très très beau bouquin de comment favoriser le développement personnel en psychologie chrétienne. Voilà, comment développer. Et qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on a voulu absolument séparer. En fait, on peut croiser, bien sûr, en distinguant, hein, mais pas sans séparer entre le dynamisme de la foi et le dynamisme de la, je dirais, de la croissance humaine. Donc, si tu veux un auteur, tu peux lire Imoda en italien. I-M-O-D-A, qui est le responsable auprès du Vatican du développement personnel et donc de la pédagogie dans les universités catholiques. Un petit peu, voilà, quelque chose un peu comme ça. C'est lui qui suit tout le processus de supervision de tous les instituts, les universités catholiques dans le monde. Voilà. Imoda. Donc voilà. Donc en langue française, il y a peu de textes dans cette perspective-là. En langue italienne, auprès du Vatican, il y en a plein. C'est là où c'est intéressant d'avoir une vision élargie de la théologie pour voir, tiens, telle école de théologie a accentué un regard là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et le magistère, lui, fait la synthèse de tous ces courants. C'est ça qui est formidable. C'est pour ça qu'il faut écouter le magistère. Et le magistère, c'est, en fin de compte, ça travaille avec des gens qui sont représentatives de toute la catholicité de la planète, c'est-à-dire de tous les regards sur Dieu, sur la vie, sur l'éthique, etc. Et à un moment, on fait une synthèse. Et c'est bien sûr le responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui fait cette synthèse, il la propose au pape, après c'est discuté avec les cardinaux, et à un moment, on met le tampon, ok, on prend position. Mais il y a beaucoup de dialogue, il y a énormément de dialogue. L'Église n'est absolument pas autoritaire en interne, absolument pas. Le nombre de dialogues avant de prendre une décision, c'est des gens très humbles qu'il y a là-bas. et vraiment des serviteurs de la foi. Oui.
J'ai une question. Est-ce que Dieu peut envoyer, enfin, permettre des épreuves qui dépassent nos forces?
Qui dépassent nos forces? Non, non, pas qui dépassent nos forces. Non. Il peut permettre des épreuves qui éprouvent, mais qui dépassent nos forces? Non, non. D'ailleurs, il y a des versets explicites qui disent cela, que le Seigneur ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Voilà. Donc, sachez que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Mais comme il veut le meilleur pour nous, il va éprouver la qualité de notre amour. Bah, c'est ce qui se passe classiquement entre des gens qui s'aiment bien. Inconsciemment, ils vont éprouver la qualité de leur amour. Et l'épreuve peut être perçue de manière négative, et elle peut être perçue de manière très très positive. Oui, oui, je suis appelé à sortir de moi-même pour aimer d'une manière plus attentive, plus délicate, nouvelle, et donc grandir en amour. Le Seigneur ne fait que ça avec nous, sauf qu'il va pousser ça au maximum. Maximum. Alors.